Audiolib présente La force du temps, le livre perdu des sortilèges, tome 4, de Déborah Harkness, traduit de l'anglais par Pascal Loubet, lu par Claire Tefna. Lorsqu'on est accoutumé depuis longtemps à ne pas regarder une chose comme injuste, elle acquiert une apparence superficielle de vérité, et de tous côtés s'élève un cri en faveur de l'habitude. Mais bientôt ce tumulte cesse. Le temps fait plus de convertis que la raison. Thomas Paine, Le sens commun. Chapitre 1. Rien. 12 mai. Lors de sa dernière nuit en tant que Sancho, Phoebe Taylor s'était conduite en fille modèle. Freya y avait tenu. « N'en faisons pas toute une affaire !» avait protesté Phoebe, comme si elle se contentait de partir en vacances quelques jours et espérait s'en tirer à bon compte en faisant ses adieux à sa famille à l'hôtel où il séjournait. « Il n'en est pas question !» répliqua Freya avec un air supérieur. « Les Clermont ne se comportent pas comme cela. Sauf Mathieu, bien entendu. Nous ferons les choses comme il convient. Au dîner. C'est ton devoir. » La réception que Freya donna pour les Taylor fut simple, élégante et parfaite. Jusqu'à la météo. Une soirée de mai exemplaire. La musique. Tous les vampires de Paris savaient-ils donc jouer du violoncelle? Les fleurs. Il avait été cueilli assez de roses Madame Hardy dans le jardin pour parfumer toute la ville. Et le vin. Freya adorait le cristal. Le père, la mère et la sœur de Phoebe arrivèrent à 20h30 comme convenu. Lui était en smoking, sa mère en lehenga choli turquoise et or, et Stella en Chanel de la tête aux pieds. Phoebe était comme toujours en noir, avec les boucles d'oreilles en émeraude que Marcus lui avait offertes avant de quitter Paris et une paire de vertigineux talons qu'elle adorait et qu'appréciait beaucoup Marcus. La compagnie de Sancho et de vampires commença par des rafraîchissements dans le jardin à l'arrière de la somptueuse demeure de Freya dans le 8e arrondissement. Un Éden privé comme on n'en a pas ménagé depuis un siècle dans un Paris désormais à l'étroit. La famille Taylor était habituée à un environnement digne d'un palais. Son père étant diplomate et sa mère issue du genre de famille indienne qui épousait des fonctionnaires britanniques depuis l'époque du Raj. Mais le privilège dont jouissaient les Clermont était d'une toute autre envergure. Ils prirent place à une table où trônaient cristaux et porcelaines, dans une pièce aux hautes fenêtres donnant sur le jardin et qui laissait entrer la lumière estivale. Charles, le taciturne cuisinier que les Clermont employaient dans leur demeure parisienne quand ils avaient des sangs chauds pour convives, aimait beaucoup Phoebe et ne s'était épargné ni effort ni dépense. « Les huîtres crues sont le signe que Dieu aime les vampires et veut qu'ils soient heureux », annonça Freya en levant son verre au début du dîner. Phoebe remarqua qu'elle utilisait le mot « vampire » le plus fréquemment possible, comme si sa simple répétition pouvait rendre normal ce que Phoebe s'apprêtait à faire. « À Phoebe, je lui souhaite bonheur et longue vie !» Après ce toast, sa famille ne montra guère d'appétit. Consciente que c'était là son dernier véritable repas, Phoebe eut cependant du mal à se régaler. Elle se força à ingurgiter les huîtres et le champagne qui les accompagnaient, puis chipota le reste du dîner. Freya anima la conversation durant les hors-d'œuvre, le potage, le poisson, le canard et les desserts. « Ta dernière chance, ma chère Phoebe !» En passant du français à l'anglais et à l'hindi entre deux gorgées de vin. « Non, Edward !» Je ne crois pas qu'il y ait le moindre endroit où je ne sois allée. Vous figurez-vous qu'à mon avis, mon père a été le premier diplomate ? Freya usa de cette déclaration surprenante pour amener le père de Phoebe, circonspect, à parler de ses débuts au service de la reine. Que ses notions d'histoire aient été justes ou non, il était clair que Philippe de Clermont avait enseigné à sa fille quelques astuces pour arrondir les angles des sujets les moins faciles. Richard Mayhew, dites-vous ? Je crois l'avoir connu. Françoise, n'ai-je pas connu un Richard Mayhew quand nous étions en Inde ? La domestique à l'œil vif avait mystérieusement